Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin sur le sujet « La famille de Jésus ». Alors je me suis dit, c'est le sujet qui s'est imposé à moi et je me suis dit « qu'est-ce que tu veux bien pouvoir dire ?» Mais on verra ensemble. Nous avons tous nos propres expériences en famille. Certains sont assez contents de leur famille, d'autres auraient aimé une meilleure. Il est vrai que certains cas ont des conséquences dues au dysfonctionnement familial, et ces cas sont difficiles à formuler déjà, difficiles à assumer et difficiles à guérir. Pour ma part, j'ai eu des bons parents aimants où le travail était l'objectif, il fallait s'en sortir. Mais j'aurais aimé les voir un peu s'embrasser, se cajoler. Alors quand j'étais petit, j'en ai déduit que c'était un mariage de raison. C'était souvent le cas après la guerre, mais je pense que je me suis trompé. Dans la Bible, nous avons des exemples de familles, pas terribles, où Dieu a malgré tout béni. Si nous prenons Abraham, à deux reprises, il a fait passer sa femme Sarah pour sa sœur afin de sauver sa peau. Et il est devenu le père de tous les croyants. Si nous prenons Jacob, famille très spéciale, qui est jalonnée de manipulations, de tromperies, même de polygamie forcée, il est devenu le père du peuple d'Israël. David, lui, c'est la polygamie qu'il a choisie. Le mariage avec des femmes étrangères qui a conduit cet homme choisi par Dieu à avoir une famille pleine de rivalité, avec même des meurtres à la clé. Et sa lignée a été choisie par Dieu pour la naissance de Jésus. Et là, il faut ajouter parce qu'il s'est repenti. Il ne s'est pas contenté de son état. Alors il y a aussi la famille de Marthe, Marie et Lazare, qui est une famille qui avait compris l'hospitalité et l'écoute du message de Jésus. Et enfin, je voudrais encore citer la famille de Timothée. Il avait un papa grec, donc un père qui avait plusieurs dieux, mais il a suivi le chemin de sa maman et de sa grand-mère, qui étaient des femmes fidèles, dans la foi. Alors vous avez tous compris que la famille est malmenée, déjà dans la Bible. Tout avait pourtant bien commencé en Genèse 2, 24, où Dieu dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » Mais la polygamie et le divorce viennent tout compliquer. On trouve même un cas de mère porteuse dans Genèse 16. Beaucoup de personnages bibliques viennent aussi de familles en souffrance, notamment des mamans stériles, comme Rebecca, mère d'Isaac, Anne, mère de Samuel, et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Mais Jésus nous parle d'une autre famille, celle de Dieu, et il la place au-dessus de celle du sang. Nous pouvons être choqués par ces paroles. Vous les avez lues. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Mais Jésus veut nous assurer que si nous avons des familles un peu dysfonctionnelles, il y a aussi une famille nouvelle depuis l'Ascension. C'est l'Église sur laquelle nous appuyer. Mais Jésus aime aussi la famille du sang. Il a réuni des familles séparées par la maladie. Les lépreux, par exemple, qui étaient obligés de vivre dans des grottes et dans des vallées sombres, eh bien, en les guérissant, il a réuni leur famille. Et il y a la famille séparée par la mort, comme Lazare avec ses deux sœurs, Lazare que Jésus a ressuscité. Les lettres du Nouveau Testament nous encouragent à l'amour, l'honnêteté et la fidélité au sein de la famille. Le mariage est le cadre dans lequel un homme et une femme vont vivre l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, et dans lequel des enfants vont pouvoir grandir et apprendre les fondements de la foi. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens 7. Le cinquième commandement nous parle aussi de la famille. Honore ton père et ta mère. Il nous appelle à ne pas négliger ceux qui nous ont donné la vie. Et par cette parole, Dieu nous renvoie un petit peu vers notre Père à tous, qui est aux cieux, et qui nous accueille avec tendresse, même si nous l'avons renié un temps. C'est pour cela que Jésus nous a laissé cette belle parabole du Fils prodigue et du Père aimant. Et nous avons chanté tout à l'heure, « Quand je me perds, tu me prends ma main ». Personnellement, je l'ai vécu à l'âge de 21 ans. Et je me souviens toujours, l'ami qui m'a rejoint et qui m'a emmené de nouveau sur le bon chemin, il m'a dit « Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Ils ont lâché la main de Dieu, mais celle de Dieu était toujours tendue vers eux. » Et dans le psaume 27 au verset 10, nous lisons « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Malmenée dans l'histoire biblique et secouée fortement à notre époque, la famille doit être l'objet de toute notre attention. La famille est si importante que l'apôtre Paul la défend avec des termes presque extrêmes. 1 Timothée 5:8 « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Nous pourrions nous arrêter là ce matin, car il y a vraiment matière à réflexion. Alors la famille de Jésus. La famille de Jésus comprend plusieurs membres, comme nous, importants, et nous allons nous arrêter un peu sur chacun d'eux. La maman, Marie, qui est souvent mentionnée dans le Nouveau Testament, est une femme extraordinaire. Nous sommes tous d'accord, je pense. Par sa soumission, sa crainte de Dieu et son obéissance. Elle ouvre la porte, malgré les dangers et les risques, pour l'arrivée du salut de Dieu parmi nous. Elle est un modèle. Elle accepte avec foi et humilité l'honneur que Dieu allait mystérieusement lui conférer. Et nous lisons dans Luc 1, 46 à 55, ce cantique qu'elle a donné. « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient le cœur et des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie semblait également jouer un rôle dans la première communauté chrétienne, puisque selon Luc, elle est présente au début de la première communauté de Jérusalem. Elle est mentionnée aux côtés des 12 et des frères de Jésus dans Acte 1, 14. Elle paraît être une figure respectée dans les premiers cercles chrétiens, même si elle disparaît rapidement de nos écrits bibliques. Elle est également probablement, elle a joué un rôle important aux côtés de Jean, puisque Jean en parle avec beaucoup de fraternité et d'amour de Marie, puisqu'il rappelle qu'elle était là à la croix avec lui. Et ils ont entendu tous les deux les paroles de Jésus. « Mon fils, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. » Donc Jésus avait une mère exceptionnelle. Joseph, qui est considéré comme son père terrestre. Nous lisons dans Matthieu 1, 16, « Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Joseph n'a pas eu une tâche facile. Il ne peut pas comprendre humainement cette mystérieuse grossesse. Et il faut l'intervention de Dieu pour qu'il devienne le père de Jésus. Joseph, nous est dit Matthieu 1, 19, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cette qualité de juste attribuée à Joseph imposait à sa conscience deux solutions. D'une part, il ne pouvait pas épouser Marie, ne sachant pas où et pas, il ne voulait pas l'exposer publiquement à l'ignominie, au moins encore aux rigueurs de la loi qui prononçait dans ce cas la peine de mort. Nous lisons ça dans Deutéronome 22, 23. Il résolut donc de se séparer d'elle secrètement, sans doute par une lettre de divorce, puisque c'était permis dans Deutéronome 24, 1. Mais là, Marie aurait échappé à la peine prescrite par la loi et à une procédure publique, mais non à l'opprobre de sa situation. Alors Joseph écoute ce que Dieu lui dit et il prend son rôle de père au sérieux, selon la volonté de Dieu, et il l'assume. Jésus avait un bon père. Les frères de Jésus, il y avait quatre qui sont nommés dans Marc 6, 3. Il nous est dit, n'est-il pas le charpentier, en parlant de Jésus, fils de Marie, les frères de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont pas aussi parmi nous. Parmi les frères de Jésus, il y a Jude, qui a écrit une lettre, en tout cas on lui attribue, et il y a Jacques, qui joue un rôle important dans la première église de Jérusalem. Jacques a dû apprendre l'ouverture du message de l'Évangile aux païens, et ce n'était pas facile pour lui. Les sœurs de Jésus n'ont pas de nom dans la Bible, et c'était souvent le cas, qu'on citait pas beaucoup les dames, malheureusement, mais c'était à cette époque-là. Mais en tout cas, on sait que Jésus avait des sœurs. Donc nous pouvons dire que Dieu a donné pour son fils une bonne famille. Alors imaginons cette famille pendant ces 30 années. Annonce par un ange d'une conception plus que spéciale via une jeune fille, vierge et fiancée, et une intervention miraculeuse de Dieu, d'Israël, pour la fécondation. Et on dirait que le fiancé est mis de côté pour cette conception, et c'est vrai. Un fiancé qui ne peut pas comprendre cette illumination de sa chérie. Mais au travers d'un songe, Joseph va comprendre ce qui se passe. Et il va falloir répondre aux questions des curieux, faire le dos rond des fois. Et d'autres ennuis vont vite commencer. Recensement au moment de l'accouchement, pas de place dans l'hôtellerie et menace de mort pour cet enfant de miracle. Fuite dans un pays étranger et retour dans une nouvelle région d'Israël, sur le conseil d'un ange. Et puis plus rien pendant quelques années. Si, une disparition de l'enfant à l'âge de 12 ans, avec une drôle d'explication pour les parents. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et encore 18 années de silence avant que Jean-Baptiste prononce ces paroles. Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Alors, comment ne pas perdre espoir pendant toutes ces années? Avoir des doutes sur le début de cette histoire et des promesses? Était-ce vrai ce que Dieu a dit? Mettons-nous à la place de Marie et Joseph. Et nous, Avons-nous des questions sans réponse immédiate? Vivons-nous actuellement des temps de silence? Tout à l'heure, nous en avons entendu parler. Alors, si ces épreuves sont arrivées à la famille de Jésus, pourquoi pas à nous? Mais nous savons que Dieu est fidèle. Et nous? Comment est notre famille? Trop petite pour certains ou trop grande pour d'autres? Trop éprouvée, trop dispersée, trop envahissante, trop indifférente, trop fusionnelle? Il faut bien ajouter encore des trop. Ou alors des pas assez riches, pas assez soudés, pas assez fraternels, pas assez fidèles. Et encore d'autres pas assez. Alors posons-nous la question aujourd'hui, est-ce que nos familles ont des qualités? J'ai une bonne nouvelle. Si nous faisons confiance à Dieu et remettons notre famille entre les mains de Jésus, nous en avons parlé pendant la prière tout à l'heure, il fera en sorte que malgré les défauts et les manques, notre famille et nous-mêmes puissions devenir des hommes et des femmes de Dieu. Des serviteurs et des servantes, des mains tendues, des gens de paix, des instruments entre les mains de Jésus. Et on se souviendra de nous dans les générations suivantes. Alors, une dernière question. À quoi ressemble une famille chrétienne saine et épanouie? J'en ai recensé 4 points, mais cette liste n'est pas exhaustive. Le premier point, c'est une famille consacrée à Christ. Paul et Silas répondirent en Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La première caractéristique d'une famille chrétienne est inévitablement le fait que ses membres soient chrétiens et aient une véritable relation avec Jésus-Christ. Une famille chrétienne dont Christ n'est pas le chef et qui vit dans le désordre, sans un respect des principes bibliques, sera confrontée à de nombreuses difficultés et souffrances. Une famille chrétienne saine doit suivre et appliquer les directives que nous donne la Bible dans tous les aspects de la vie. Chaque membre qui la compose doit comprendre et remplir le rôle que Dieu lui a confié. C'est-à-dire les talents que nous avons reçus, les mettre à la disposition de tous. Une famille au service du Christ, deuxième point. Idéalement, nous sommes tous au service du Seigneur. Dieu a réparti en chacun des dons et des talents utiles pour le service et faire avancer le royaume. Lorsqu'une famille, père, mère et enfant, met son talent au service de Dieu, lorsque chacun remplit le rôle que Dieu lui a confié, la paix et l'harmonie règnent dans la maison. Les bénédictions liées à ce service s'accomplissent dans la vie de tous, pour le bonheur de tous, et aussi pour le bonheur de l'Église. Troisième point, une famille unie dans l'amour. Marc 3, 25. Et quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer à exister. La Bible nous prévient. Une famille chrétienne divisée ne peut pas mener une vie sainte et épanouie. Pour rappel, la famille est une institution divine. Nous l'avons citée tout à l'heure. Elle a été créée par Dieu. Dans sa vision, elle doit être pour chaque membre une source de joie, de paix, d'épanouissement et de bénédiction. Un lieu où l'on cultive l'amour véritable. La famille au sein de laquelle les membres se pardonnent mutuellement. L'époux aime sa femme, comme Christ aime l'Église. Les parents ne négligent pas leurs enfants et des moments de qualité avec eux pour les éduquer, les aimer. L'unité fraternelle est impérative pour maintenir ce bonheur au sein de la famille. Et enfin, quatrième point, une famille qui prie. La famille dont le succès des parents et des enfants est remarquable et indéniable sont celles qui prient ensemble, à travers des réunions de prière régulières. Une famille qui prie aura tout le pouvoir pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, nous dit la Bible. Une famille qui prie restera unie et soudée face à l'adversité. Nous en avons parlé. Satan ne pourra jamais briser ou attaquer une telle famille. Conclusion de ces quatre points. La cellule familiale est très importante. De son équilibre dépend aussi l'équilibre de l'Église. On comprend donc pourquoi l'ennemi s'acharne autant. Une famille chrétienne saine et épanouie à une famille est une famille puissante dont le diable a peur. Alors parents, enfants, d'un même esprit, vivons notre foi fidèle et conforme à ce que le Seigneur veut de nous. Alors pour terminer, je voudrais vous laisser un témoignage que j'ai trouvé sur le Top Chrétien. C'est le témoignage de Evelyne Simonet. Elle dit ceci. J'ai été gardée dans mon enfance par une famille que j'aimais beaucoup. Ils étaient chrétiens pratiquants. Ils ne manquaient jamais une messe. Ils étaient très engagés dans la vie de leur église et ils étaient un exemple de gentillesse et de serviabilité. J'aimais l'harmonie qui régnait dans leur foyer. Jamais de disputes, en tout cas en ma présence, ni de bagarres, beaucoup d'honnêteté, pas de médisance, un couple uni qui pratiquait ensemble l'amour de Dieu. Et cela se voyait. J'avais beaucoup d'admiration pour eux, d'autant plus que chez moi, il n'y avait pas la même ambiance. Il y avait une fille, un peu plus âgée que moi. Elle jouait avec moi à divers jeux de société et elle m'apprenait à jouer sans tricher. Le mensonge et la tricherie étaient bannis de leur maison. C'était pour cela qu'on s'y sentait si bien. Alors, j'ai perdu une feuille. Où c'est qu'elle est ? Là, voilà. C'est bon. Ils étaient entourés de voisins tumultueux. Ça nous arrive, hein ? Mais ne répondaient pas aux attaques ni aux moqueries. Ils gardaient leur calme en toutes circonstances, afin que rien ne les atteigne. Ils demandaient la protection. Et on voyait qu'ils étaient protégés. Je trouvais ça formidable. Et l'enfant que j'étais se demandait bien comment ils arrivaient à rester aussi calmes. Cet exemple, journellement sous mes yeux, me donnait envie d'avoir la même vie qu'eux. Chez moi, il y avait de la mésentente, des disputes, et cela me rendait malade. Et lorsque je sentais l'orage arriver, j'allais me réfugier chez cette famille, car là, je me sentais accueilli et protégé. C'est eux qui m'ont le mieux appris à connaître Jésus. Toute mon enfance a été bercée par leur enseignement chrétien et par leur sollicitude envers moi. Puis, les années ont passé. Cette famille exemplaire m'a fait du bien et je la remercie du fond du cœur. Ils ont été un des piliers de ma vie spirituelle. Aujourd'hui, grâce à eux, je comprends ce que veut dire connaître Dieu personnellement, avoir la foi et la mettre en pratique. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » était leur slogan. Envers moi, ils ont mis en pratique ces paroles de Dieu, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Ils savaient que toutes les fois qu'ils m'ont fait du bien, c'est à Christ qu'ils ont fait du bien. C'est l'exemple vivant du Christ qu'ils m'ont donné, c'est un beau cadeau. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, soyons encouragés à aimer notre famille, même si nous ne la trouvons pas à 100%, et à prendre le plus grand soin de ce que Dieu nous a donné. Si elle n'est pas exceptionnelle, confions-la à Dieu dans la prière. Il passera sûrement quelque chose que nous n'imaginons pas. Il faut lui faire confiance. Mais il faut savoir qu'une chose, c'est que nos familles sont regardées. Alors, que le Seigneur nous vienne en aide pour que ce soit, que nos familles soient regardables, tout simplement. Prions. Seigneur, depuis la création, l'ennemi a voulu détruire ce que toi tu as voulu de plus précieux. Parce que nos familles sont des refuges. Nos familles sont des dispensaires, des hôpitaux, des foyers d'accueil. Alors nous voulons te prier, chacun pour la nôtre, pour que nous soyons à la hauteur, avec ton aide et le secours de ton Saint-Esprit, pour que d'autres puissent venir puiser, comme cette jeune femme. Nous avons besoin de toi, parce que naturellement, nous ne sommes pas des canons. Mais avec ton aide, c'est possible. Alors merci de nous accompagner dans ce sens-là. Que toi, tu sois connu à travers nous. C'est notre prière ce matin. Amen.